Bonjour à tous et bienvenue sur RCF Calvados Manche pour votre rendez-vous mensuel avec Mgr Boulanger, évêque de Bayeux et Lisieux. Mgr Boulanger, bonjour.
Bonjour.
Alors Mgr, dans quelques jours débuteront les vacances scolaires d'été pour plus de 12 millions d'élèves et plus de 900 000 enseignants, mais aussi pour de nombreux salariés. Et alors, je dirais pour vous, qu'est-ce que ça représente ces vacances ?
D'abord un temps où, je dirais, où on allège un peu notre rythme de vie. Il y a beaucoup moins de rendez-vous, il y a beaucoup moins aussi d'emails, etc. Donc c'est un temps un peu privilégié pour faire du rangement déjà, pour faire ce que nous n'avons pas eu l'occasion de faire durant l'année, qu'on a laissé plus ou moins de côté. Il y a des choses qui étaient plus urgentes, mais en même temps, c'est un temps quand même de travail. Et je dirais, dans un cadre beaucoup plus détendu. Et en même temps, on a moins de coups de téléphone, etc. Je prends quelques jours de vacances, toujours en Bretagne, une semaine. Mais quand je suis à l'évêché, j'aime beaucoup la nature. Et puis, on est ici dans un cadre, on a la mer, etc. La campagne, on est dans un cadre privilégié en Normandie. Donc, partir à des kilomètres pour vivre sous 40 degrés de soleil, je préfère rester un peu en Normandie.
Oui, puis vous qui venez du Nord.
Oui. J'accueille aussi des amis, etc., des gens de la famille parfois. Donc, je reste quand même essentiellement en Normandie.
Oui, voilà. Donc vraiment, les vacances, c'est le temps à la fois du repos et de la rencontre.
Voilà.
Vous avez raison. Voilà, et ça, effectivement, on peut inviter les gens à prendre ce temps pour renouer des liens avec de la famille, avec des amis, ou tout simplement aller rencontrer de nouvelles personnes.
Tout à fait. Alors, c'est vrai que tout dépend un peu de la personnalité de chacun.
Oui.
Ceux qui ont des enfants ou autres, c'est important de partir, de vivre ce temps de famille.
Oui, de se retrouver.
Par exemple, au bord de la plage ou autre. C'est des moments privilégiés entre les parents et les enfants. Ensuite, souvent, les grands-parents accueillent chez eux les petits-enfants. Voilà encore un moment un peu privilégié. Mais je dirais, si c'est pour retrouver le même stress que l'on vit tous les jours, à quoi bon ? Parce qu'il y en a qui vont faire des milliers de kilomètres pour retrouver... On est dans des campings les uns sur les autres... C'est le bruit, on se couche très tard. Il y en a qui reviennent aussi fatigués que quand ils sont partis. On ne peut pas appeler ça vraiment du repos, même si c'est un autre contexte. Donc je pense que c'est important de vivre un autre rythme de vie, de retrouver un peu de calme, de profiter de la nature, de savoir s'émerveiller. Tout ça, ce sont des éléments, je dirais, qui font partie un peu d'une attente, en tout cas, aujourd'hui. Il y en a qui vont faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, il y en a qui vont faire un pèlerinage, il y en a simplement qui vont marcher en forêt. Voilà, c'est important, je dirais, mais ne pas retrouver cette foule, ce stress, c'est déjà, je pense, pour beaucoup de personnes, ce phénomène, pas partir le matin au travail à 7 heures, pouvoir se lever à 8 heures, 9 heures, peu importe. Mais vous voyez, c'est un autre rythme de vie qui est important pour beaucoup de nos contemporains.
Alors pendant ces vacances d'été, beaucoup de gens voyagent en France ou à l'étranger, mais tous n'ont pas forcément la chance de partir en vacances. Et qu'est-ce qu'on peut faire aussi vis-à-vis de ces personnes, tout simplement, qui n'ont pas la chance de partir?
Alors heureusement qu'il y a des centres de vacances, par exemple pour les enfants. Des colonies. Nous organisons aussi un certain nombre de choses. Je vois chez les scouts, il y a des camps. Les parents des scouts ne partent pas tous en vacances. Mais ça permet en tout cas à leurs enfants de vivre une expérience de 15 jours en général, dans la nature, auprès d'un château, ou dans un bois, dans une forêt. Donc de vivre déjà autre chose. C'est vrai que il y a les CCAS dans les villes organisent des centres aérés, d'autres des colonies qui permettent en tout cas aux plus défavorisés, au moins pour les enfants et les jeunes, de pouvoir partir. Mais vous avez raison, il y a des familles, surtout des mamans seules avec des enfants, qui, mis à part la famille, ne peuvent pas partir. Donc elles vont chez une sœur, chez un frère, passer quelques jours, mais ça reste l'unique vacances qu'elles peuvent prendre, parce que partir même dans un camping aujourd'hui, vu le trajet ou autre, c'est trop cher. Donc effectivement, vous avez raison, il y a de nombreuses personnes autour de nous qui ne partent pas en vacances, ça, c'est indéniable.
Et donc on peut aussi aller leur rendre visite ou autre.
Voilà.
Bon,
oui.
En tout cas, vous nous l'avez dit, en ce qui vous concerne, vous allez prendre quelques jours de repos, mais votre agenda est tout de même bien rempli. C'est ce que nous allons voir dans la suite de notre émission.
L'actu du diocèse sur RCF avec Monseigneur Boulanger, évêque du diocèse de Bayeux-Lisieux, au micro d'Alexandre Barbet.
RCF.
Le 7 juillet, Monseigneur, vous serez à Alençon pour une célébration et l'inauguration de la maison d'accueil Louis et Zélie Martin. Alors, qu'est-ce que ça représente pour vous, ce projet?
Parce que bon, ça représente beaucoup de choses, parce que
c'est quelque chose d'important.
À la fois, je dirais, j'ai initié ce projet,
bien,
enfin,
sûr,
de,
voilà.
Au moins de la maison Louis et Zélie Martin, et là, mon successeur, hein, le père Jacques Habert, hein, je l'admire et je lui dis un grand merci d'avoir continué l'œuvre d'une certaine manière, d'avoir voulu aussi que tout ce qui avait été un peu entrepris continue. Donc c'est un lieu d'accueil pour des pèlerins, des familles, mais aussi des pèlerins individuels qui vont venir à Alençon, en particulier des couples, puisque à Alençon beaucoup de couples viennent prier ou de famille, ils viennent prier Louis et Zélie Martin. C'est là où ils ont été vécus, où ils ont vécu en famille, ils ont vécu en couple. Et donc, je ne peux que me réjouir l'investissement que le diocèse de C a fait pour aménager cette maison d'accueil, qui se trouve tout près de la basilique Notre-Dame, hein. Et donc, l'inauguration aura lieu le 7 juillet. Et là, pour moi, je pouvais pas me libérer dans un premier temps, j'ai réussi à me libérer Pour moi, c'est vraiment une grande joie.
Oui. Alors, justement, et pour marquer la continuité entre Alençon et Lisieux, une semaine plus tard, le dimanche 14 juillet, donc vous serez à Lisieux pour clore les fêtes de Louis et Zélie Martin. Comment vivez-vous ces fêtes, justement ?
Mais pour moi, c'est, je dirais, j'ai
là,
une grande,
continuité,
grande dévotion, une grande reconnaissance aussi vis-à-vis de Louis et Zélie, hein, parce que qu'un couple soit aujourd'hui non seulement béatifié, puisque j'ai connu leur béatification, j'avais demandé déjà au pape Jean-Paul II en 2002, hein, et là de voir qu'ils ont été aussi canonisés, puis en même temps, je pense que pour les familles aujourd'hui, c'est un lieu important. Élisieux, il y a aussi Sainte Thérèse, il y a aussi Louis, hein, la famille qui est avec Louis qui est veuf, hein, qui a élevé ses filles, ses cinq filles. Et donc, je dirais, ça c'est quelque chose aussi d'important. Hein, comment ce père a essayé hein, de prodiguer de l'affection, de la tendresse vis-à-vis de ses enfants, de ses filles. Et puis, comment il a vécu aussi sa vie en étant veuf, sachant que ça n'était pas facile, plus la maladie qu'il a connue pendant 3 ans. Hein, et donc, tous ces événements font aussi qu'un certain nombre de personnes viennent prier Louis et Zélie Martin à Lisieux, en même temps que Thérèse, pour évoquer aussi les moments parfois tragiques de la vie.
Alors, ce 14 juillet, donc on l'a dit, c'est la clôture des fêtes de Louis et Zélie Martin à Lisieux, mais c'est aussi jour de fête nationale. Alors, une question peut-être un petit peu osée, mais fêtes religieuses et fêtes nationales peuvent-elles aller ensemble, faire bon ménage ?
Ben oui, parce que c'est compliqué à Bayeux. C'est en même temps la fête nationale et c'est la dédicace de
et la dédicace de la cathédrale aussi à Bayeux.
Le jour qui a été choisi. Donc, vous voyez, c'est très complexe. Et en même temps, célébrer une dédicace un 14 juillet, beaucoup de personnes locales sont parties, les chrétiens habituels qui viennent à la messe régulièrement ne sont pas là pour la plupart. Donc c'est très difficile d'organiser le 14 juillet une fête de la dédicace. Elle se réalise souvent dans la grande discrétion. Là, ce dimanche-là, je dois être à tout prix à Lisieux. Donc, ça sera le vicaire général qui sera le 14 juillet. Mais en même temps, je dirais, c'est la fête nationale. C'est la plupart des gens qui sont en vacances, qui partent en vacances pour le mois de juillet. Donc, elle passe, cette fête de la dédicace, qui est pourtant très importante, passe souvent, je dirais, de manière discrète. Elle n'est pas vraiment mise en valeur. C'est un peu dommage, mais voilà, ça a toujours été le 14 juillet. Nous n'avons pas à changer aujourd'hui, oui.
Non. Un autre grand rendez-vous de cet été, Monseigneur, c'est la fête de l'Assomption que vous célébrerez donc à la cathédrale de Bayeux. Alors, ça aussi, c'est un temps important. Qu'est-ce que ça représente pour vous, l'Assomption, Monseigneur ?
Alors, évidemment, c'est l'Assomption de la Vierge. Hein, c'est cette grande fête, je dirais, des catholiques. Hein. Et je la célébrerai bien sûr à la cathédrale de Bayeux, puisque la cathédrale est consacrée à Notre-Dame. Pour moi, j'ai toujours vécu ce 15 août, depuis mon enfance, comme un moment fort, que ce soit en famille, que ce soit dans les paroisses, etc., avec la procession, avec des lieux consacrés à la Vierge Marie. Et donc, ce 15 août, ça sera pour moi aussi un moment important de célébration, en sachant que à Bayeux en particulier, à cette messe, il y a autant de touristes qui de passage que de gens des locaux. Okay. Vous voyez.
Oui.
Donc et nous avons aussi la procession le soir.
Hein, oui.
Et cette procession est aussi importante parce que elle évoque comment, à la fin de la guerre, la Seconde Guerre mondiale, eh bien, des catholiques ont remercié la Vierge Marie d'avoir protégé la ville de Bayeux et lui ont élevé une statue.
Oui. Alors deux jours plus tard, Monseigneur, aussi, le samedi 17 août, vous serez à Douvres-la-Délivrande pour les fêtes du couronnement de la Vierge. Est-ce là aussi la même foi qui s'exprime chez les pèlerins ?
Elle est même plus ancienne d'une certaine manière, même si la cathédrale date du 12e siècle, 12e, 13e. C'est le sanctuaire Douvres-la-Délivrande et c'est le sanctuaire le plus ancien de toute la Normandie, consacré à la Vierge Marie, à Notre-Dame de la Délivrande, qui nous délivre des maux, M-A-U-X, du malheur, des forces du mal. C'est qui délie les nœuds, d'une certaine manière, de nos vies. Et c'est très beau aussi comme symbole, cette Vierge noire du Moyen-Âge, et qui nous rappelle que celui qui prie la Vierge ne désespère pas de la vie. Et il a là une maman qui veille sur lui. Donc il y a, ça diminue, je reconnais, il y a de moins en moins de pèlerins, de participants à la messe et à la procession dans les rues de Douvres. Et en même temps, je suis étonné de voir aussi des jeunes foyers avec des enfants, des personnes qui viennent parfois de l'extérieur. Sans doute que cette fête du 17 août à Douvres-la-Délivrande n'est pas assez connue dans notre diocèse, mais pour moi, c'est un lieu important que je ne raterai jamais.
Alors, il y a là aussi une forme d'expression de piété populaire.
Oui.
Qu'est-ce qu'on peut en dire de cette piété populaire ? C'est important ? Est-ce qu'elle vient en opposition avec la foi ou...
Non, je ne pense pas. Enfin, nous sommes trop puristes bien souvent. Les gens qui sont là, ce sont des gens tout simples, des petites gens, des gens qui ont connu beaucoup d'épreuves dans leur vie. Ils viennent avec une telle confiance que, je dirais, une telle foi en la Vierge Marie qu'ils nous en remontent d'une certaine manière. Quand on les regarde, quand on les écoute, on est là, je dirais, touché, comme Jésus a pu l'être. C'est les gens souvent les plus simples qui ont cette foi profonde. C'est pas uniquement la foi du charbonnier, vous savez, ils ont tenu bon là aussi dans des parcours parfois difficiles, mais ils se tournent volontiers vers la Vierge. Vous voyez, c'est notre Mère du Ciel, c'est une femme avec elle on se sent proche, c'est la Mère de Jésus. Donc c'est aussi la même foi qui s'exprime chez ces pèlerins, et certains viennent de très loin, parce que c'est un sanctuaire connu depuis le Moyen-Âge.
J'ai noté, Monseigneur, dans votre agenda un rendez-vous particulier, c'est le dimanche 18 août. Il s'agit de la fête de la convivialité à Livarot, et pour l'occasion, vous présiderez une célébration eucharistique dans le stade de la ville. Alors, ma première question, déjà, c'est peut-être qu'est-ce que c'est que cette fête de la convivialité, puis après
Je pense que c'est la paroisse qui, tous les 5 ans, organise de manière très très simple un rendez-vous sur un stade à Livarot en plein air, avec bien sûr des chapiteaux, mais on invite les gens, tous ceux qui veulent, à se retrouver. Le matin, il y a la messe qui est bien préparée. Tous les élus sont invités, tous les maires des différentes communes. Au fond, l'église locale, du pays d'Auge Sud,
rassemble
des gens qui ont envie de se retrouver. Et du coup, la fête est toute simple, ce n'est pas grandiose, mais permet aux uns et aux autres, aux familles, à la fois de prier, s'ils le souhaitent, le matin c'est quand même un temps fort, dehors, et puis en même temps de se retrouver autour d'un repas, des jeux, etc. C'est la convivialité. Le père Zacharie, qui est là depuis longtemps, aime aussi à proposer ce style de rencontre, pourquoi pas. Je crois que, et puis les gens apprécient, ça fait partie de leur histoire. C'est un rendez-vous tous les 5 ans auquel ils tiennent, un peu comme nos bénédictions de la mer à Port-en-Bessin ou ailleurs. Et là, on est dans le rural, on est dans ce pays d'Auge déjà profond, comme on dit. On n'est pas loin de Vimoutier. Donc, les gens, les ruraux, qui sont isolés, bien souvent, ont besoin de se retrouver. Et je peux dire que quand je célèbre la messe,
Oui, en plein air quand même, en plein air, c'est sympa.
Ben, les gens aiment bien, voilà, ils répondent, ils chantent, puis d'autres sont là, mais sont pas malheureux d'être là. Ils viennent pas par obligation, ils viennent par pour... Oui, il y a une dimension spirituelle, il y a une dimension religieuse, et puis il y a une dimension festive. Je suis heureux de vivre ces moments-là dans mon ministère d'évêque.
Alors justement, vous l'avez dit, il y a cette célébration en plein air qui est quand même un événement. Enfin, on n'en voit pas très souvent. J'avais une autre question vis-à-vis de cette fête. Est-ce qu'il s'agit, puisque c'est le nom qui est indiqué, de vivre la convivialité, voire d'aller un petit peu plus loin pour vivre la fraternité?
Ben, je dirais il y a les deux. Disons qu'il y a plutôt de la convivialité. Hein. C'est un temps de détente. Un temps où, je dirais, on ne va pas parler de politique, hein, on ne va pas parler de religion. Donc, on est heureux, on mange ensemble, on parle de choses et d'autres, de la vie tout simplement. Et puis, ça resserre des liens. Je pense que les élus sont très heureux d'être invités par l'Église. Vous voyez ? Là aussi, c'est une, moi-même, enfin, que, si je viens et que j'y vais, c'est une manière de dire ma reconnaissance.
Oui.
De tout ce qu'ils font pour cette région, hein, qui, si vous prenez Orbec, etc.,
oui,
qui connaît des difficultés au niveau économique,
hein, oui,
qui se désertifie de plus en plus,
aussi.
Et les élus essaient de porter des projets, d'animer leur commune. C'est important que l'Église reconnaisse que ce qu'ils font est quelque chose du royaume de Dieu, d'une certaine manière. Il favorise la fraternité, déjà. Puis là, on se rassemble pour rendre grâce au Seigneur de tout ce qui se vit. Et en même temps, c'est un appel à continuer, à pas baisser les bras, tout simplement.
Enfin, Monseigneur, comme chaque année, vous emmènerez plusieurs centaines de chrétiens du diocèse, des jeunes, des adultes, des personnes malades ou âgées, accompagnés par des hospitaliers bénévoles, pour le pèlerinage diocésain à Lourdes qui aura lieu du 18 au 24 août et même jusqu'au 25 pour les jeunes. Alors, tout simplement, qu'est-ce que ça représente pour vous, ce pèlerinage? Parce que ça, c'est vraiment un grand amphore du diocèse.
C'est un grand amphore pour le diocèse et pour moi personnellement, puisque ça fait, je ne compte plus le nombre de pèlerinages que j'ai pu faire en tant que prêtre et en tant qu'évêque. Et pour moi, Lourdes, c'est un lieu aussi de... Tout à l'heure, nous évoquions la convivialité, la fraternité. C'est vraiment un lieu à la fois spirituel,
oui,
où la Vierge est là, hein, où j'ai été témoin tellement de cheminement, de presque de conversion, de réconciliation, et de combien de gens sont revenus de Lourdes transformés. Et puis, en même temps, c'est un lieu de fraternité. Les malades nous obligent à vivre à leur rythme, nous obligent à sortir les mains de nos poches pour pousser les fauteuils ou les chariots. Et donc, là aussi, c'est un élan spirituel, un grand élan de foi et un élan de vie fraternelle. Et je dirais que c'est... Ensuite, il y a les jeunes, mais déjà, au niveau des adultes, c'est un temps fort exceptionnel dans l'année d'un évêque. Je ne vois pas beaucoup d'évêques rater le pèlerinage à Lourdes avec leur diocèse. Ensuite, nous avons cette chance d'avoir beaucoup de jeunes, hein, d'avoir une équipe super, hein, des animateurs, animatrices, etc. Donc de me retrouver aussi près de la cité Saint-Pierre avec ces jeunes, que ce soit à tel ou tel moment de la journée ou à tel temps fort le soir, c'est quelque chose de très important. Surtout de voir la joie de ces adolescents, hein, de se retrouver, on est dans un cadre merveilleux, hein, au pied des Pyrénées, et le soir, on est là dans la nature quand il fait très beau, sous ce ciel étoilé, c'est de toute beauté, dans le silence, hein, parce qu'on est loin de la grotte, on est loin des bruits de la ville, hein, et les jeunes apprécient beaucoup.
Oui. Alors, Monseigneur, ce sera peut-être pour vous votre dernier pèlerinage à Lourdes en tant qu'évêque du diocèse aussi.
C'est sûr. Je pense que ce sera le dernier parce que je ne peux pas prolonger des mois et des mois. J'espère que le Saint-Père sera à l'écoute aussi de nos demandes. Hein. Je ne suis pas le seul évêque à demander lors de la lorsqu'on atteint l'âge de la retraite de pas prolonger de mois et de mois. D'ailleurs, c'est pas bon non plus pour le diocèse qui est en attente d'un successeur. Il faut savoir laisser la place. Mais c'est vrai que Lourdes, en tout cas en tant que pèlerinage diocésain, me manquera beaucoup. C'est l'un des événements qui, je dirais, auquel j'ai plus, le plus tenu dans ma vie d'évêque, mais aussi dans ma vie de prêtre, parce que je suis allé tous les ans pratiquement en pèlerinage à Lourdes, et j'ai accompagné des centaines et des milliers de jeunes à Lourdes, et quelque part, Lourdes reste une terre de grâce, et pour moi aussi, bien sûr. Hein, en tout cas, j'ai eu cette chance, ici dans le diocèse, de participer à tous les pèlerinages diocésains.
Le thème de ce pèlerinage est le suivant. Heureux, vous les pauvres. Alors, ma dernière question, Monseigneur. En quoi se reconnaître pauvre peut-il nous aider à être plus forts?
D'abord, vous savez, quand on avance en âge, on bute sur ses pauvretés. Hein, il y a la mémoire, il y a la santé, le corps, hein, qui ne réagit plus de la même manière. C'est déjà des pauvretés qu'on n'a pas choisies, mais que la vie nous impose. Oui. Et puis, aujourd'hui... Oui. Je dirais, dans l'Église, on peut pas faire le malin, vous savez, on vit plutôt avec une Église pauvre en moyens, pauvre en effectifs, hein, et donc, quelque part, cette pauvreté-là, nous ne l'avons pas non plus choisie, elle est dure à vivre. Et puis, en même temps, on va côtoyer à Lourdes les malades.
Oui.
Que de pauvreté, si vous voulez, et pourtant, que de joie en même temps.
Que d'espérance.
Que d'espérance, parce que c'est eux, bien souvent, ce sont eux
qui nous donnent des
qui
leçons
nous
de
donnent
vie,
hein. véritablement de cette joie et ces petits bonheurs auxquels ils sont attachés. Donc, voilà, après, il y a nos pauvretés économiques, hein, et là, nous rencontrons aussi à Lourdes des personnes qui ont beaucoup de difficultés, hein, si c'était pas la paroisse, qui les aidait, les pèlerinages, hein, ils ne pourraient pas venir. Donc, quelque part, c'est aussi l'occasion, hein, pour ces pèlerins et les plus pauvres qui sont avec nous, de vivre un temps de bonheur. Hein, ils sont, eux, tellement heureux. On voit tellement de larmes quand ils reprennent le bus. Hein, ils sont tristes de quitter Lourdes, on les comprend. Voilà, un petit peu Lourdes compte beaucoup dans nos diocèses aujourd'hui, et je ne peux que remercier tous ceux et toutes celles qui permettent ce pèlerinage à Lourdes.
Merci, Monseigneur. Merci d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Nous vous souhaitons un bel été, ainsi qu'à tous nos auditeurs, et nous vous donnons rendez-vous au mois de septembre pour de nouvelles émissions avec Monseigneur Boulanger. Au revoir.